Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Merci beaucoup d'être présents ce soir parmi nous pour ce café scientifique consacré au bois et à nos forêts. Neuchâtel, pays boisé s'il en est. Je crois que la thématique a touché, en tout cas ce soir, puisque vous êtes parmi nous. L'université de Neuchâtel et le comité des cafés scientifiques a décidé de mettre cette thématique à l'ordre du jour aujourd'hui parce que notre institution est impliquée dans un grand projet de recherche national, le programme national de recherche 66, qui est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et qui a pour thématique la ressource bois dans son ensemble. Et la faculté des sciences économiques de l'université de Neuchâtel a mis le pied à l'étrier pour examiner cette question sous un angle économique. Le titre de leur projet, qu'ils mènent de front avec la Haute École de gestion de Genève, « Comprendre le marché du bois entre approvisionnement et multifonctionnalité ». Et nous avons la chance d'avoir dans le panel Alain Schoenenberger, qui est professeur associé chez nous et qui, de ce fait, est la cheville ouvrière aussi de ce projet. Il nous en dira, bien entendu, beaucoup plus durant cette soirée. La mise en place de ce café scientifique fait aussi suite à un cycle de conférences organisées à l'Université de Neuchâtel sur la thématique de la ressource bois et de ses conséquences économiques, également mise sur pied par Alain Schoenenberger. Donc voilà, c'est un cycle qui s'achève sur ce café scientifique, sur cette discussion ouverte au public. Et je voudrais donc remercier tous les intervenants qui ont bien voulu se déplacer pour cette discussion de ce soir. Alors, comme à notre habitude, je vais demander à chacun d'entre eux de brièvement se présenter et de dire à quel titre ils viennent ici pour animer cette discussion. Tout d'abord, monsieur Yann Bonny, à vous la parole. Vous avez un micro juste à côté. Voilà.
Donc, Yann Bonny, je suis ingénieur forestier à la ville de Neuchâtel et à l'arrondissement de Neuchâtel. Donc, je suis un professionnel de la forêt.
Du côté public.
Du côté, actuellement du côté public. J'ai été du côté privé à un moment. Ça suffit ou vous voulez que j'en dise plus?
Disons, nous pouvons revenir après, pendant les questions.
Alors, j'ai déjà été introduit, mon nom est Alain Schoenberger. Je participe au projet du Fonds national. C'est un projet parmi les 30. Il y a à peu près quatre projets qui touchent la partie économique. Et nous, on est un des projets qui est un projet plus macro, plus économique. Et il y a deux autres qui sont plutôt management ou des exploitations. Mais à côté de ces quatre projets de type économique, il y en a 25 projets qui s'occupent de la science dure, naturelle, c'est-à-dire l'utilisation du bois, la chimie du bois, etc. Donc, si vous voulez consulter le site PNR, Programme National de Recherche 66, et là, vous trouvez la liste des projets. Voilà. Alors, modestement, moi, je ne représente que notre projet à l'Université de Neuchâtel, en collaboration avec HES Genève, qui est, le titre a déjà été mentionné. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Michel von Wies.
Alors, Michel von Wies, je suis président de ProNatura Neuchâtel. Notre association est propriétaire de quelques forêts, surtout les plus grandes du côté de la Brévine, de la Cornée, dans la vallée de la Brévine, la Cornée, les Jordans. On essaye de gérer ces forêts avec une priorité à la biodiversité, en essayant de recréer des espaces favorisant la revenue ou le maintien d'espèces qui ont de la peine à se maintenir dans notre canton, comme le grand tétras, la gelinotte ou la bécasse.
Bonsoir, Jérôme Attinger. Moi-même, je suis vice-président de l'association neuchâteloise de cours d'orientation. Donc je suis ici pour représenter plutôt la fonction sociale de la forêt, avec les activités qu'on y pratique, que ce soit des entraînements ou des manifestations de grande envergure. J'ai été aussi membre du comité d'organisation quand on a organisé, il y a quelques années, une très grande manifestation dans le canton de Neuchâtel, et ça permettra aussi de parler probablement de la fonction économique de la forêt.
Merci beaucoup de cette première présentation. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des questions dans la salle, des thèmes qui vous viennent à l'esprit, que vous aimeriez soulever ? Sinon, moi, je voudrais commencer par demander ce que représente la forêt en Suisse, géographiquement parlant. Quelle est la surface de la forêt dont on parle ici ? Et puis peut-être de parler un peu à qui elle appartient, évoquer cette question de propriétaire, parce que je crois que c'est déjà une question en soi pour la gestion de la forêt. Alors je ne sais pas qui veut se lancer dans la première partie. Monsieur Bonny. Oui.
Donc en Suisse, on a à peu près 30% du territoire national qui est couvert par la forêt. Et puis ce qui fait en tout un peu plus de 1 million d'hectares, donc 1 hectare étant 10 000 mètres carrés, qui en Suisse, la forêt est principalement en main publique, donc en main des collectivités publiques, communes principalement, les cantons et un peu la Confédération. Et ces entités publiques, donc quand on dit communes, il y a aussi les communes bourgeoises qui sont considérées comme propriétaires forestiers publics. Les bourgeoisies, qu'on connaît peu dans le canton de Neuchâtel, mais qui sont dans certains cantons les gros propriétaires terriens, entre autres propriétaires forestiers. Donc, eux possèdent un peu plus de 70% la forêt suisse. Les 30% qui restent étant en main privée, c'est-à-dire des personnes physiques et des entreprises, des caisses de pension, ou des choses comme ça.
Mais le nombre est très élevé. Oui. Dans les privés, il y a 250 000 propriétaires de forêts, donc c'est très morcelé. Et puis à côté, dans le côté public, vous avez à peu près 1500 exploitations, peut-être un peu plus de 1000, le nombre varie, 1500 exploitations qui sont structurées, qui travaillent plus ou moins sur toute l'année, parce qu'il y a encore 1500, je pense, d'exploitations qui font ça à temps partiel, de temps en temps. Voilà. Et puis à côté, il y a les propriétaires, dont certains exploitent, et puis la grande majorité n'exploite rien du tout. Ils sont propriétaires d'une forêt. Ce qui peut aussi poser un problème dans le cadre de la mobilisation du bois. Pas seulement la question publique, puisque là, on s'adresse à 1500 exploitations, mais comment on s'adresse aux 250 000 propriétaires ?
D'accord. Donc,
et peut-être encore une chose. Il y a encore les conditions topographiques et géographiques sont totalement différentes. Donc, vous avez le Jura, qu'on est ici, mais vous avez ce plateau où l'exploitation est plus facile, de fait déjà parce que ce n'est pas très pentu, etc. Et puis, les forêts sont peut-être plus grandes. Et puis, vous avez des forêts dans les montagnes, dans les Grisons, et puis dans les Alpes, où les conditions d'exploitation sont totalement différentes. Donc, il faut aussi avoir en tête que les conditions sont différentes quand on parlera de coût et d'efficacité.
Alors justement, puisqu'on parle d'exploitation, j'aimerais qu'on entre un peu directement dans le vif du sujet. La forêt, ça semble représenter une manne incroyable en termes d'activités qu'on peut y faire, en termes peut-être de revenus directs et indirects. Alors, est-ce qu'on arrive déjà à dessiner quels sont les secteurs au niveau de la forêt qui sont les plus rentables entre l'exploitation pour le bois proprement dit, pour la construction, pour l'énergie ou pour les loisirs, comme on avait dit, même en termes indirects, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Est-ce qu'on peut esquisser un peu davantage le problème ?
Oui, donc le propriétaire forestier, qu'il soit privé ou public, en fait, il n'a qu'une seule source de revenus, c'est la vente du bois. Et toutes les autres prestations, parce qu'en Suisse, on reconnaît la forêt sa multifonctionnalité. Donc, il y a la prestation production de bois, qui est la filière économique de la forêt. La prestation protection contre les dangers naturels, qui est plutôt l'aspect protection contre les dangers naturels, donc les avalanches, chutes de pierres, glissements de terrain. L'aspect accueil du public en forêt, donc ça, c'est tous les loisirs, en forêt, et puis l'aspect maintien de la biodiversité. Et puis tout ça est mélangé, si on veut, et puis partout en forêt, on a ces quatre fonctions qui cohabitent, qui doivent cohabiter. Donc ça, c'est la législation qui le définit, à des degrés divers, bien entendu, parce qu'une forêt protectrice, elle est avant tout protectrice, mais on ne peut pas négliger l'aspect économique, puisqu'il y a quand même accroissement de bois, ni l'aspect social ou biodiversité, qui sont, y compris dans les forêts protectrices, qui sont présents. Donc le propriétaire, lui, doit gérer une forêt multifonctionnelle qui a de multiples prestations pour la collectivité, mais dont le revenu, donc le financement des frais d'intervention, ne se fait que par l'intermédiaire de la vente du bois, en tout cas aujourd'hui, avec, pour la forêt protectrice principalement, et pour la biodiversité, des subventions fédérales et cantonales qui aident ou qui incitent le propriétaire forestier à entreprendre des travaux dans ces buts-là. Mais le propriétaire ne retire aucun revenu des gens qui viennent s'y promener, qui viennent se promener dans sa forêt, qui viennent cueillir des champignons, ou des baies sauvages, même qui ramassent du bois mort. Donc toutes des activités qui sont en Suisse garanties par le Code civil. Il y a ce libre accès de la forêt suisse, mais donc le propriétaire est tenu de garder ses forêts ouvertes sans en tirer un revenu, on va dire, en tout cas direct. Voilà, donc le propriétaire, lui, quand il vend du bois, ben, c'est ça son revenu, en fait. Et puis le bois de qualité, c'est le bois qu'on utilise dans les scieries, donc ce que nous, on appelle le bois de service. C'est celui-là qui a la plus grande valeur. Et donc, plus on a une forêt qui contient du bois de service, plus la rentabilité de la chose, l'entretien de ces forêts est bon. Si on a des arbres de mauvaise qualité, qu'on peut utiliser ou valoriser que sous forme de bois énergie, là, on a une rentabilité qui est nettement moins bonne, parce que le prix du bois est plus faible.
Quelle est la situation, alors, en Suisse, par rapport à ces différents types de bois? C'est-à-dire... quelle est la situation actuelle au niveau économique par rapport au potentiel que ça représente?
Donc, au niveau du propriétaire, c'est clair que rares sont les propriétaires qui font du bénéfice sur l'entretien de leur forêt. Et puis, comme la forêt est une propriété plutôt publique, eh bien, c'est plutôt les collectivités qui, par le biais de l'impôt, financent des prestations pour sa population dans ses forêts. En fait, c'est ça.
Oui, allez-y.
En complément, la sylviculture n'est pas un secteur très important. Peut-être ça représente 30% en termes géographiques, mais en termes économiques, c'est moins d'1%. Si on prend en compte toute la filière du bois. Et puis, au niveau des exploitations, c'est 2-3 000 personnes, je crois, en tout. Plus... il y a des scieries, on a 200-250 scieries, puis ensuite, il y a d'autres utilisateurs du bois, du charpentier, le meuble, ça n'existe plus, le papier, ça n'existe pratiquement plus en Suisse. Donc là, on a quand même peu de monde sur ce secteur-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut dire, en termes économiques, c'est l'exagère. Pour la situation financière, non seulement il faut financer ces prestations non économiques, mais en plus, les échantillons officiels qu'on recueille des exploitations financières, la majorité de ces exploitations ont déficit aussi sur la production de bois, en laissant de côté toutes les prestations qu'elles font, qui coûtent à la commune. Donc, vous n'avez pas de subvention à la production, vous avez des subventions à la production, comme Yann l'a dit, mais il y a une subvention implicite, c'est que le déficit est pris dans la commune. Donc c'est la commune qui subventionne ou qui couvre le déficit de la production, non seulement de loisirs ou de l'environnement. Et cette situation financière s'est dégradée. Elle s'est dégradée d'un côté, c'est parce que l'exploiter le bois, ça coûte de plus en plus cher. Et là, il y a des problèmes structurels graves, en termes économiques, je dis. Et puis, c'est que le prix du bois, qui est influencé par l'extérieur, il y a une certaine forte concurrence étrangère, eh bien, il est plutôt à la stagnation, à la diminution. Donc, vous avez un des ciseaux coûts croissants, parce que les salaires, les coûts, tout ça, c'est logique interne, et puis prix du bois, logique externe, par la concurrence.
Est-ce qu'on peut citer quelques chiffres pour avoir un ordre de grandeur de ce que ça représente en termes économiques ? Je ne sais pas si vous avez des chiffres.
Des chiffres pour la ville de Neuchâtel.
Par exemple ?
Eh bien, on sait que, pour tout le littoral neuchâtelois qui a des forêts semblables, on sait que, pour être simple, par habitant, chaque habitant, par le biais des impôts qu'il paye dans sa commune, verse entre 20 et 30 francs par année pour l'entretien, pour couvrir, si on veut, le déficit des comptes forestiers. Ça dépend si la commune est un grand propriétaire forestier ou pas, mais disons, dans l'ordre d'idée, c'est ça.
Et au niveau du littoral, est-ce qu'on considère qu'on est un grand propriétaire forestier plutôt
Au niveau suisse, on a vu qu'on avait 70% de forêts publiques, 30% de forêts privées. Dans le canton de Neuchâtel, on a une situation un peu particulière dans le sens où on a beaucoup moins de forêts publiques que en moyenne suisse. Donc on a 58% de propriétés forestières publiques et les 42% de forêts privées. Mais cette répartition n'est pas uniforme sur l'ensemble du canton. Sur le littoral, on a presque que de la forêt publique, alors que dans les montagnes neuchâteloises et dans les vallées, on a une proportion de forêts privées qui est beaucoup plus importante. Donc, même dans les montagnes, c'est plutôt de la forêt privée que de la forêt publique.
Est-ce qu'actuellement, là je m'adresse à Michel von Wyss, l'exploitation de la forêt vous fait peur pour Pronatura ? Est-ce que tout va bien et finalement vous êtes content de la situation actuelle ?
Non, je ne crois pas qu'on peut dire que l'exploitation nous fait peur. Il y a quand même, c'est quand même intéressant de se rendre compte que cette magnifique forêt qu'on a dans notre canton... c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 130 ans, avant qu'il y ait la nouvelle loi sur les forêts qui ont amené à recréer en fait toute la forêt en Suisse, et notamment là où la fonction de protection n'existait plus, parce qu'en fait on avait tout pris pour brûler. Si on voit encore des gravures ou des premières photos de notre canton, nos montagnes, elles sont dénudées, quoi. Elles sont... Voilà, il y avait... Donc, c'est quand même... C'est une valeur pour notre population, cette forêt qui existe, qui est importante, et notamment au niveau des zones de protection, cette magnifique chance qu'on a avec toute la région des Gorges de la Reuse, notamment comme zone de protection des eaux pour l'approvisionnement de notre canton. Et l'épuration, on va dire, le maintien d'eau propre, c'est quelque chose de très important. Il y a une dynamique de la forêt, c'est-à-dire que si on ne fait rien, la forêt gagne. Et puis on sait qu'en Suisse, actuellement, il y a 1 ou 2%, je crois que c'est de l'ordre d'1% de forêt de plus chaque année. Donc où la forêt prend sur les terres quand on fait rien, elle vient toute seule plus grande. C'est pas forcément le cas dans notre canton dans une même mesure qu'au niveau suisse, mais c'est quand même une réalité. Si d'un point de vue de la nature, c'est vrai que on n'est plus à l'époque des bons sauvages et puis à vouloir que tout, de toute façon, notre forêt est jardinée. Et puis merci à Henri Biollet qui a créé ça, qui vient de chez nous, de Couvet, en 1890 à peu près. Ce modèle de forêt jardinée qui est largement développé chez nous est devenu quand même un modèle. Mais ce qu'on se dit d'un point de vue nature, et tout en trouvant que c'est beaucoup de chance d'avoir ça, c'est que ça crée une certaine uniformisation de la forêt, puis on se dit est-ce qu'on pourrait peut-être développer ou laisser ou retrouver des zones de forêt plus particulières comme les forêts riveraines proches des cours d'eau, proches des rives du lac, laisser un peu à elles-mêmes, comme les forêts d'éboulis qui peut-être pourraient aussi être un peu moins entretenus pour que leur dynamisme et leur spécificité soient un peu développés. Mais ça, c'est de toute façon des petits secteurs. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans les petits secteurs qui ne sont pas intéressants au niveau de l'exploitation, qu'on puisse peut-être laisser des choses revenir dans des formes un peu plus spécifiques pour qu'on ait une plus grande diversité. Mais avec Yann Bonnier, par exemple, avec la ville de Neuchâtel, entre la ville de Neuchâtel et Pronatura, du côté de l'Ermitage, de Pertuis-Dussault, on a une vision commune de comment valoriser la garide, qui est cette forêt particulière de chênaies sur des dalles avec très peu de terre et qui permet d'avoir une flore et une faune tout à fait spécifiques, mais qui nécessite un entretien quand même assez volontaire. On a cette idée que la nature, c'est un peu une mise sous cloche de quelque chose qui existe, mais en fait, on se rend compte, et moi j'étais le premier à en être surpris, quand je suis devenu président de Pronatura, je ne connaissais pas tellement les choses. On m'a recruté par petite annonce, mais enfin, c'est comme ça. Mais de se rendre compte que, en fait, la gestion de milieux naturels, ça nécessite d'avoir des objectifs, de fixer des objectifs de gestion, puis ensuite de faire ce qu'il faut pour les atteindre. Et ça va dépendre où on est, pourquoi. Et ce n'est pas laisser la nature simplement faire aller sans intervention, et notamment dans les forêts. Si on ne fait rien, eh bien, la forêt se ferme. Les clairières qui existaient encore il y a quelques dizaines d'années, parce qu'il y avait encore de la pâture dans les forêts, eh bien, c'est quelque chose qui n'intéresse plus personne, qui est abandonné, et les forêts se ferment. Et c'est aussi ce qui fait que ces animaux, et notamment les oiseaux, qui pouvaient encore trouver les conditions de leur existence dans ces milieux bien particuliers, mais qui étaient liés à l'activité pastorale et puis humaine, ne le trouvent plus maintenant. Et alors, on peut dire tant pis, ou bien on peut dire peut-être dans certains secteurs, mais c'est vrai que là, ça implique aussi de la tranquillité, puis la tranquillité, dans la forêt, il n'y en a plus beaucoup, mais on n'est pas non plus à dire qu'il n'y a que la nature qui doit compter. On sait bien que toutes les autres activités humaines, et notamment les vôtres avec les courses d'orientation, avec les différents sports, vous existez, vous avez besoin vous aussi d'utiliser ces zones. Alors, comment on fait? Et c'est vrai que là, on a aussi maintenant, sous l'égide de l'État, une façon de fonctionner entre ces diverses activités, nature, sport, et puis les besoins de tranquillité de certaines zones de notre canton qui permettent de tenir compte des besoins des uns et des autres. Alors, voilà, un petit peu.
Justement, puisque vous avez évoqué votre collègue à votre gauche, Jérôme Attinger, je me tourne vers vous et je pense que vous avez vu passer cette actualité régionale qui est dans le courrier neuchâtelois d'aujourd'hui. Voilà, je vous lis le titre. Le communal de la Sagne, donc le communal, c'est une forêt. Vous nous en direz plus parce que je crois que vous connaissez bien le coin, qui risquerait une mise sous cloche. Et nous avons un conseiller général, Pierre Renaud, qui a déposé une motion pour un peu faciliter quand même une certaine souplesse dans l'organisation des manifestations sportives dans la forêt, alors que certains membres de l'exécutif prônaient plutôt une réglementation plus sévère, notamment pour la protection de la gélinotte dont nous avons parlé tout à l'heure, donc un gallinacé sauvage. Voilà, peut-être alors un commentaire. Vous, en tant qu'organisateur ou participant à des courses d'orientation, quelle garantie, au fond, vous donnez lorsque vous souhaitez organiser des manifestations de ce type dans les forêts ou même pour vous entraîner?
Tout à fait. Alors, Il faut voir qu'on a quand même plusieurs types d'activités avec des envergures qui sont très différentes. On parlait de chiffres auparavant, il faut voir qu'en Suisse, quand on a 4000 personnes qui font de la course d'orientation sur l'ensemble de la Suisse, c'est un grand maximum. Quand on organise une manifestation type championnat suisse, type course nationale, c'est entre 1500 et 1600 personnes qui peuvent venir dans une forêt. Mais il faut voir que ce genre de choses, ben, c'est 4, 5, 6 fois par année qu'on a ces grandes manifestations qui ont lieu en Suisse. Ensuite, ben, il faut voir que, comme tout club, comme toute association sportive, on a des activités. Puis ces activités, ben, ça a lieu avec les membres de notre club. Puis là, ben, dans le canton de Neuchâtel, on est 40, 50, 60 à se retrouver, disons, une fois par semaine pour aller pratiquer notre sport dans une des forêts de Neuchâtel. Donc évidemment, plus on a de restrictions, plus on exploite en termes sportifs, les mêmes forêts. Puis c'est clair que nous, en tant que sportifs, on aime bien aussi, disons, avoir de la diversité. Donc c'est clair que si on devait aller courir tous les mercredis après-midi dans la forêt de Tête Plumée, ben, au bout d'un moment, on la connaîtrait pas par cœur, puis on n'aurait peut-être pas forcément aussi ce plaisir de découvrir la forêt. Donc c'est sûr qu'on essaye aussi un peu de naviguer à travers l'ensemble des forêts du canton de Neuchâtel. Alors ça, c'est un petit peu, disons, pour le type d'activité qu'on pratique. Ce qu'il faut voir quand on organise des manifestations d'envergure, donc quand on parle de manifestations d'envergure, tout dépend des sports, on est plutôt entre 500, 600, voire 1000 participants, on a vraiment des procédures à respecter qui ont été mises en place par l'État. Et puis c'est clair que M. Fonvis parlait justement de cette réglementation. Il faut voir que maintenant, quand on organise une manifestation sportive, ça devient extrêmement contraignant pour les organisateurs. Et c'est dans ce cadre-là que M. Renaud a aussi, disons, souhaité lancer un peu le débat. Il faut voir que maintenant, pour organiser une manifestation, ben, on doit notamment annoncer cette manifestation auprès du canton. C'est maintenant le SAT, donc le service d'aménagement du territoire, qui fait cette mise à l'enquête, finalement comme un dossier de permis de construire et autres. Et finalement, l'ensemble des services du canton sont aussi sollicités pour donner un préavis par rapport à ça. Alors c'est sûr qu'on a les forestiers, on a la faune, on a potentiellement aussi les ponts et chaussées quand c'est des manifestations cyclistes qui ont lieu. Et finalement, on a déjà un premier préavis qui nous arrive et puis qui va nous imposer un certain nombre de choses. Et c'est clair que dans les impositions qui viennent de la part du canton, c'est qu'on doit informer l'ensemble des propriétaires terriens qui vont être touchés par la manifestation. Alors c'est sûr que quand vous prenez ce genre de contraintes, ben vous voyez bien que, comme l'a dit M. Bonny, quand on est dans le littoral neuchâtelois, c'est relativement facile, parce que finalement, on va se retrouver à faire des demandes auprès des communes, puis auprès du canton. Puis en principe, ces personnes-là, enfin ces institutions-là, elles ont effectivement un respect de la loi, et puis elles savent que justement, la forêt a aussi une fonction sociale, donc en principe, les autorisations, on les a relativement facilement. Après, il y a des questions de période, il y a des questions effectivement de savoir où c'est qu'on met le parking, etc. Donc évidemment, il y a peut-être d'autres problématiques qui viennent après coup. Mais c'est clair que dès qu'on monte sur la deuxième crête du Jura, une deuxième crête qui est effectivement extrêmement intéressante aussi pour la course d'orientation, parce qu'on a effectivement des types de forêts qui sont complètement différentes, ben on se retrouve aussi avec cette multitude de propriétaires, qu'ils soient privés, qu'ils soient des exploitants, etc., qu'il faut aller convaincre pour pouvoir organiser une fois une manifestation avec 500 coureurs un dimanche après-midi dans ces forêts-là. Et je peux vous dire que ça, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où finalement, on a quelques zones privilégiées parce qu'on sait qu'on a des bons contacts avec les propriétaires sur lesquels on peut exploiter aussi en termes sportifs ces forêts. Typiquement, ben, une des forêts qu'on a passablement utilisées ces dernières années parce qu'effectivement, il répond à ce nombre de critères, c'est la forêt, le massif du Cernil entre les Verrières et puis le Cernil, parce que simplement c'est une forêt qui a une belle envergure, qui est au niveau technique extrêmement intéressant et qui appartient principalement aussi à des collectivités publiques et dans lesquelles on arrive effectivement à organiser des manifestations. Donc c'est sûr que nous, les garanties qu'on mène, c'est que, je dirais, à nouveau, on a tous des sports qui sont aussi différents, mais c'est clair que, je dirais, nous, dans le domaine de la course d'orientation, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on a au sein de notre fédération une commission qui s'occupe uniquement des aspects environnementaux, qui ont édicté des bonnes règles, des bonnes pratiques que les clubs doivent mettre en pratique. Et clairement, ben, actuellement, sur les autorisations, disons, sur les compromis qu'on a aussi mis en place avec l'État, c'est c'est clair que l'accès aux forêts sur la deuxième crête du Jura, donc une forêt qui est aussi plus sensible, ne peut se faire qu'à partir, j'ai l'impression, du 1er août ou du 1er septembre, mais que globalement, on peut y accéder que 2 mois par année, parce qu'une fois qu'on se retrouve au mois d'octobre, on ne va plus du tout organiser de grandes manifestations, parce qu'évidemment, à partir du début du mois de novembre, eh bien, on a quand même des risques de neige, et puis ce n'est pas marrant d'organiser une manifestation avec 2000 coureurs, et puis que le jour d'avant, on a 30 cm de neige, puis qu'on doive tout annuler. Donc c'est vrai que pour nous aussi, des fois les fenêtres d'opportunité pour organiser des manifestations est extrêmement court entre les conditions atmosphériques, entre les vacances et entre l'espace temporel que nous laisse l'État pour pouvoir accéder à ces forêts.
Et la protection du grand tétras.
Et la protection du grand tétras, bien entendu. Puisqu'effectivement, au printemps, le grand tétras, en principe, on le laisse tranquille pour ses petites affaires.
Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ? C'est une discussion pour vous, ne vous gênez pas. Ah.
Bonsoir. Et je voulais demander, parce que ça m'intéresse énormément par rapport avec la région que je connais, si la Suisse, donc notre Jura, là, est. La santé de la forêt, est-ce qu'il se plaint, les gens, ou plutôt la nature, de manque de nettoyage? Parce que j'ai rencontré ce sujet en nord d'Italie, donc dans les montagnes orobiques, les Alpes orobiques de Bergame, qu'avant, comme ils avaient les grands élevages, utilisaient les chevaux, on a utilisé les feuilles des forêts pour
comme litière.
Protéger les stalles. Bon. Même que des fois les garçons ils pouvaient s'attraper par les propriétaires puis être battus jusqu'à rester 3 jours dans le coma parce qu'ils ramassaient un panier de feuilles. Donc, et puis c'est ce que j'ai attendu maintenant que. Dans cette région, il y avait beaucoup de sources et c'est à cause que la forêt n'est pas assez nettoyée, l'eau de source n'est pas toujours bonne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est l'histoire ou par manque d'oxygène ou je ne sais pas qu'il y a trop de choses pourries dans la forêt, si c'est l'eau de source, elle peut s'abîmer ou...
Alors c'est deux aspects, donc entretien de la forêt et puis... L'eau de source.
Je voulais encore ajouter, il me semble que c'est comme dans plusieurs domaines maintenant. On a fait une trop grande différence. Avant, on n'osait pas toucher, maintenant, on ne fait plus rien parce qu'on a les plastiques, on n'a pas besoin moins de papier. Et je ne sais pas, il y a, à mon sens, il y a un tout petit peu de déséquilibre, mais je ne sais pas si c'est.
Alors restons sur les deux premiers aspects de la question, peut-être.
Oui. Mais c'est clair, par rapport à l'entretien, c'est juste que pendant les années où le bois était une source importante d'énergie, mais aussi pour la construction, on utilisait beaucoup de bois pour la construction, les forêts ont été très fortement mises à contribution, y compris les feuilles qui remplaçaient la paille dans les écuries, mais on s'est rendu compte que ces pratiques étaient pour la forêt, pour la fertilité de la forêt, tout à fait néfastes, parce que le sol forestier n'était plus nourri des déchets de la végétation que le sol portait. Donc ça, c'était des pratiques qui ont été abandonnées et même qui sont interdites, en tout cas en Suisse, tout simplement pour protéger la forêt. Après, quand le bois se vendait très bien, que les coûts d'exploitation étaient faibles, eh bien, le propriétaire forestier avait la possibilité, je dirais, de faire des travaux qu'aujourd'hui on considère comme luxueux, c'est-à-dire mettre les branches en tas, vraiment nettoyer le sous-bois forestier. D'un point de vue de la culture de la forêt, ça n'a aucun sens. C'est juste bon pour l'œil, peut-être, mais d'un point de vue de la santé de la forêt, d'un point de vue de le rajeunissement de la forêt, à quelques exceptions près, eh bien, cette pratique n'est pas utile. Donc, lorsque le propriétaire a eu des soucis financiers, avait de la peine à couvrir les frais, eh bien, ces pratiques ont été abandonnées. Et puis, aussi, on a pris conscience que le bois mort en forêt avait une importance d'un point de vue de la biodiversité. Donc, quelque part, on justifie ces forêts que certains considèrent comme sales, comme une prestation en faveur de la biodiversité. Et puis, le bois mort n'est pas une source de pollution des sources, puisque... Donc, sur un sol forestier, il y a toujours en surface la matière organique en décomposition, en plus ou moins grande quantité, mais il y a toujours des feuilles, il y a toujours des aiguilles, il y a toujours des brindilles. Et puis, c'est le premier filtre de l'eau de pluie. Déjà, ça casse la force de la pluie, donc ça quitte d'éroder le sol, la terre, et puis mélanger l'eau à de la terre, et puis que ça fasse une eau boueuse, si on veut. Donc, l'eau de pluie, la force de l'eau de pluie est cassée par ces feuilles mortes. L'eau s'infiltre gentiment dans le sous-sol. Et puis, petit à petit, les pores du sol deviennent de plus en plus petits. Donc, de plus en plus, les particules fines qui sont contenues dans l'eau sont retenues dans le sol. Puis, une fois que l'eau est arrivée suffisamment profondément dans le sol, eh bien, elle devient potable, tout simplement.
Ça veut dire que c'était une information fausse, je ne sais pas qui l'a répondu, mais merci pour cet éclairage.
Oui, vous voulez compléter.
Moi, juste un témoignage, parce que c'est vrai que ça fait environ 30 ans que maintenant je pratique la course d'orientation. Et puis que quand j'ai commencé, j'avais environ 10 ans, on courait assez facilement dans des forêts sur le plateau, justement du côté de Berne, Soleure et autres, où c'est qu'on avait vraiment des forêts qui étaient nettoyées, pas simplement, effectivement, c'était une pratique qui se faisait. Et puis, il y a l'Otard qui a passé, où c'est que le prix du bois a complètement chuté, donc à part sortir des billes, on laissait à peu près tout au sol. Et c'est vrai que pour notre besoin de la forêt, ça a quand même posé un certain nombre de problèmes, parce qu'on s'est retrouvé dans des forêts qui étaient extrêmement difficile à courir avec beaucoup de branches au sol. Alors à nouveau, ça a changé un peu la technique. On a un peu levé un peu plus les jambes, ça posait pas de problème. Mais c'est vrai que c'était un temps qui est maintenant révolu et puis on le voit bien que maintenant les travaux forestiers laissent quand même plus de déchets sur place qui posent des fois aussi un petit peu des problèmes pour nous. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans des zones où il y a eu des coupes de bois qui ont été réalisées durant les dernières périodes, des fois on a un peu de difficulté y accéder. Mais à nouveau, je dirais, ça fait partie du jeu et puis on fait avec, quoi.
Une question dans la salle, monsieur.
Oui, donc je suis Claude-André Montandon, garde forestier à la commune de Val-de-Travers. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'éléments là qui m'intéressent et qui m'interpellent. Quand on parle de rentabilité, on a la chance encore à la commune de Val-de-Travers de dégager du bénéfice. Alors, un gros bénéfice sur les exploitations de bois. Et puis un bénéfice, on va dire moyen, mais quand même acceptable, sur l'ensemble des comptes forestiers qui englobent toute la partie investissement, entretien, courant, des chemins, etc. On n'a pas forcément plus de mérite que Yann Bonny et la ville de Neuchâtel, parce qu'effectivement, le forestier bûcheron qui passe une heure ou une journée à façonner du bois dans nos forêts, ce bois, on va le vendre 100 ou 120 ou 130 francs le mètre cube, parce que c'est du bois de service, comme ça a été dit tout à l'heure, donc du bois de qualité. On sort aussi un peu de bois énergie, et puis c'est une proportion qui est relativement faible par rapport aux forêts du littoral, qui sont beaucoup plus feuillues et beaucoup plus chargées en bois énergie. Donc c'est finalement dû aux conditions des forêts qu'on trouve soit au littoral, soit chez nous. Et puis, on a maintenant, je dirais, un des gros problèmes qu'on a par rapport aux activités sportives, c'est qu'à l'époque, tout était assez facilement conciliable. On faisait nos exploitations, il y avait un peu d'activité sportive. Et puis, l'évolution de la société que vous connaissez bien fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une grande difficulté de concilier tous ces intérêts. Moi, je pense que j'ai au minimum, chaque mois, une demande de nouvelles activités sportives en forêt, ou un nouveau canapé forestier, ou un nouveau sentier, une nouvelle piste VTT. On passe, en tant que gestionnaire, on passe un temps énorme à essayer de satisfaire ces demandes, parce que c'est l'évolution de la société Et indépendamment de la production de bois, on doit aussi satisfaire cette fonction sociale. Mais pour vous dire que ça prend des proportions qui sont assez énormes. Alors là, on a un représentant des cours d'orientation, mais vous êtes des dizaines de centres d'intérêt différents à vouloir avoir votre part de gâteau pour faire votre activité. Et pour nous, comme gestionnaires, effectivement, on investit un temps considérable et finalement un investissement financier qui est considérable. Alors souvent, on nous reproche que les collectivités publiques font de moins en moins de bénéfices ou font du déficit, mais il faut quand même savoir que le service forestier, dans ses missions, par sa volonté politique, par l'évolution de la société, eh bien, elle remplit ses demandes, et puis c'est ce qui est tout à fait normal, alors que la forêt privée, qui elle, des fois aussi des difficultés à boucler ses comptes, en général, c'est coût d'exploitation, vente de bois. Donc c'est plus facile pour une forêt privée de dégager un bénéfice. Il ne faut pas oublier que tous les sentiers pédestres, par exemple, sur un territoire communal politique, sont à charge de la commune, y compris dans les forêts privées. Donc le privé n'a pas à entretenir un réseau pédestre de chemins ou de sentiers. C'est à la commune, la charge en est complètement à la commune. On investit, nous, environ 30 000 francs par année avec l'équipe forestière communale pour l'entretien des sentiers, des places d'accueil, des tables, des foyers, etc. Mais j'avais aussi peut-être une question à M. Schoenenberger, puisque j'ai cru comprendre que c'est les projets sur lesquels vous travaillez, donc ça, c'est notamment au niveau de l'économie forestière ou l'industrie du bois.
L'économie forestière, c'est au niveau des forêts, c'est sur les exploitations.
Sur les exploitations.
Principalement.
Voilà.
Et pas sur la filière, évidemment, sur
voilà. Alors, c'est vrai qu'on cherche aussi des moyens d'être toujours plus performant malgré ces charges qui augmentent. En termes d'exploitation, on est venu beaucoup actuellement à l'exploitation semi-mécanisée. Donc, on fait intervenir des tracteurs forestiers avec grues qui nous permettent d'avoir un meilleur rendement. Je rappellerai juste que quand j'ai fait l'apprentissage en 85, on devait faire environ 5 à 6 mètres cubes par jour par homme. Aujourd'hui, on en est à 18, 17 à 18. Et les coûts de la main-d'œuvre ont augmenté, mais on a pu rationaliser parce qu'on ne ramasse plus de branches en forêt, parce qu'on n'écorce plus, parce qu'on façonne le minimum, parce qu'on façonne plus le bois énergie. Bref, on cherche quand même constamment des solutions pour améliorer cette rentabilité forestière. Mais la question, c'est de savoir quelles sont les pistes de votre côté pour essayer d'améliorer encore cette situation. Parce que dans le grand écart qu'on est en train de faire avec... pour concilier tous les centres d'intérêt, eh bien, des fois, l'économie forestière leur prend un coup. Et puis, on perd des fois un peu la vision de se dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer cette rentabilité des exploitations forestières?
Oui, merci. C'est un grand débat. Moi, juste, comme vous le dites, il y a deux choses. Il y a la question de la production de bois qui est jugée à l'aune du marché. C'est-à-dire, est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce qu'on arrive à vendre ou pas? Et puis, est-ce qu'on arrive à être concurrentiel? Donc, et là-dessus, on est jugé. Si on fait un déficit, on est soit inefficace, soit ça coûte trop cher, ou les prix sont trop bas. Il y a des explications. Et peut-être, il y a des remèdes à ça. L'autre question que vous avez dit, c'est tous ces services que les communes rendent, y compris, c'est pas que aussi pour les propriétaires privés, qui finalement... Dans la grande majorité, les propriétaires privés ne font strictement rien. C'est peut-être pas non plus sans intérêt de savoir. Si les propriétaires privés ne font rien, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment les exploiter parce que c'est trop petit. Ou bien, de toute façon, ils ne peuvent pas mettre autour... ils ne peuvent pas se réserver l'utilisation de la forêt puisque la forêt est devenue nationalisée. Le droit de propriété dans la forêt, ça n'existe plus. Dans ce sens-là. Vous êtes propriétaire, vous pouvez bien faire. Puis si vous coupez des bois, il faut qu'on demande. Puis voilà. Donc voilà, alors, il y a tout ce côté privé, les 250 000 francs, les 50 000 propriétaires, où on n'en parle pas beaucoup. Et là, peut-être, il y a des possibilités d'exploitation, mais ça veut dire qu'il y a des regroupements. Etc. Alors maintenant, si on parle des publics, qui est de 75%, je pense qu'il faut encore différencier les régions, mais on constate que c'est relativement inefficace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont, par rapport à celles qui sont efficaces, sont inefficaces. Donc, il y a un problème de méthode de travail, certainement, de mécanisation, etc. Voilà. Ça peut être dû, par exemple, parce que les exploitations sont petites. et ils n'ont pas une large surface, etc. Donc on arrive à la question de la structure de l'offre. Vous avez un morcellement entre de 1500 exploitations qui chacun jardine sa propre forêt. Et les communes tiennent à la forêt. Donc on essaie au niveau fédéral de favoriser les regroupements, les fusions, etc. Et c'est comme les fusions de communes, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, la population ne veut pas lâcher l'exploitation de la forêt hors d'une commune. Donc une solution, c'est, si je vais au plus haut au point, c'est de cantoniser le tout, de te regrouper tout sous une autorité, et c'est l'autorité supérieure, c'est plus la commune, c'est le canton, c'est un ensemble de cantons, c'est la confédération qui exploite ça, mais de façon systématique, tout en respectant le nombre de critères qu'on veut respecter. Donc peut-être il faut regrouper tous ces cas pour exploiter les économies d'échelle, c'est-à-dire pour c'est le volume qui fait baisser le prix, et pour investir dans des mécanisations qui seraient encore compatibles ici dans le Jura et dans la plaine, peut-être moins plus problématique dans les Alpes, mais on peut mécaniser. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que si les exploitations emploient des sous-traitants, c'est-à-dire des entreprises forestières qui viennent avec des grosses machines, si c'est possible, ça baisse systématiquement le coût. Donc, ça a un effet négatif. Alors, pourquoi pas, au lieu qu'un grand propriétaire mette en concurrence 400 entreprises forestières pour faire des coupes à grande échelle. Je simplifie parce qu'après, il y a toutes les contraintes qu'on veut sur la nature, sur le loisir, etc. Mais je pense que là, il y aura des choses à faire. Mais ça veut dire qu'il faut abandonner ce hyper-fédéralisme forestier si on veut favoriser la baisse des coûts et la compétitivité des coûts de la production de bois, compte tenu après des objectifs qu'on peut se donner en termes de durabilité, développement, économie, etc., écologie, qu'on comprend. On est passé de la propriété privée ou avec coupe rase à la propriété publique, on ne peut plus rien faire sans autorisation. C'est ça. Et c'est le forestier qui met la croix sur l'arbre, etc. Alors, est-ce qu'on ne peut pas revenir un peu en arrière, tout en ménageant la nature, l'utilisation de la forêt, mais aussi en favorisant la compétitivité de la production de bois et donc de la filière de bois?
Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation, justement, d'empêcher de... Vous dites qu'avant, c'était plus facile d'exploiter les forêts, même en main publique, et maintenant, c'est plus difficile. Pourquoi? Pour quelles raisons?
Je ne sais pas si c'était plus difficile. Avant, on coupait, etc. Puis, vous voyez, comme M. de Villefort nous avait dit, ben, on voyait, c'est des rases, c'est des rasés. C'était ni beau, ni intéressant, ni naturel, etc. Ouais. OK. Mais maintenant, on est dans l'autre contraire. Maintenant, il y a 2-3 millions de mètres cubes qui croissent. Voilà. Non seulement la surface croît, mais encore en hauteur, puis en largeur. Et puis, on n'arrive pas à vendre le bois. On arrive parce que c'est trop cher. Et puis, on n'arrive pas à le vendre à des clients. Il n'y a pas de demande pour ça. Il y a aussi l'étranger hein, qui vient. Etc. Donc, on est une forêt qui continue de croître et de croître à 2 millions de mètres cubes. Et puis, bientôt, on aura 50, si on continue comme ça, à 50% ou 40% de la surface. Alors là, il y a un paradoxe. Je veux dire, si. Maintenant, je ne sais pas si on est devenu plus restrictif, mais je constate que la population est très fortement attachée à la forêt. Pas seulement les 4000 coureurs, etc., mais même ceux qui ne vont pas en forêt. Voilà. Même si qui ne mettent pas le pied dans la forêt, ils disent qu'il faut protéger les forêts. Vous avez des sondages à 90% de soutien de forêt, si possible communal et du quartier. Comme ça, on a tout ça sous contrôle, mais on ne comprend pas les enjeux de ça. C'est l'évolution politique, c'est de la population. Alors peut-être il y a une évolution au niveau...
Monsieur Bonny qui veut ajouter quelque chose, et puis après...
J'aimerais... Oui. Pardon. Oh.
Bien, ben allez-y, monsieur Attinger, puis après monsieur Bonny.
Moi, en plus de faire du sport, je travaille aussi dans le domaine de l'énergie, donc j'ai une casquette un petit peu différente sur ce coup-là. Mais c'est vrai qu'on voit aussi que de plus en plus, on essaye de valoriser la filière bois pour le bois énergie. Et c'est clair que actuellement, avec un prix du mazout ou du gaz qui est relativement bas, avec la tonne de CO2 qui est aussi relativement bas, on voit très bien qu'on est encore, disons, capté par des énergies fossiles. Le jour où c'est qu'on aura le prix du pétrole qui va de nouveau commencer à flamber pour X nombre de problèmes géopolitiques ou parce qu'on arrivera dans le fameux peak oil, eh ben c'est clair que le bois va devenir plus intéressant et qu'il y aura aussi plus de demandes pour le bois. Et c'est clair que là, il y a, je pense, aussi passablement un rôle de la part des collectivités publiques, justement pour encourager, pour développer et pour promouvoir la filière bois au sein du territoire communal. Et c'est clair qu'on le voit aussi maintenant, on a aussi de plus en plus de constructions qui se font en bois, ou l'utilisation, ou disons, on retrouve de l'utilisation du bois dans les constructions, alors que pendant 20-30 ans, ben, on jurait que par le béton, parce que c'était plus simple, ça coûtait moins cher et que c'était plus facile à utiliser. Et on voit aussi que maintenant, il y a cette tendance qui revient. Donc, on a l'impression que, je dirais, on va avoir des conditions cadres qui pourraient aussi rapidement évoluer dans les prochaines décennies, je dirais peut-être pas forcément dans les 6 prochains mois, mais on voit aussi qu'il y a une évolution et que probablement, on va avoir aussi une demande de bois. Alors, à nouveau, ça pourrait être du bois énergie, ça pourrait être du bois de construction qui va augmenter. Et que potentiellement, ça va aussi donner un peu plus de marge de manœuvre aux exploitants et aux propriétaires pour revendre leur bois après coup.
Monsieur Bonny.
Oui, juste le martelage, donc c'est l'action du forestier dans toutes les forêts privées et publiques où il désigne les arbres à abattre. Ça, c'est une prestation de la collectivité en faveur des propriétaires forestiers. Donc les propriétaires forestiers payent relativement, plutôt une indemnité aux collectivités par rapport à cette prestation. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça, c'est depuis 1902, donc c'est la première loi forestière en Suisse. Donc, disons, puis depuis 1902 jusqu'dans les années 80, eh bien, malgré le martelage, si on veut, l'économie du bois était florissante, y compris en Suisse. Donc je ne pense pas que là, c'est plutôt un service aux propriétaires forestier qui est là plutôt qu'une entrave. Et puis je dirais qu'elle était beaucoup plus forte dans les années de 1902 jusqu'à les années 60 où la demande en bois était forte en Suisse. Donc le forestier y retenait pour pas qu'on surexploite la forêt. Maintenant le forestier y retient pas. Il est plutôt à côté du propriétaire forestier en lui disant mais là il faut couper, là il faut couper, là il faut couper. Voilà pourquoi il faut rajeunir, il faut, etc. Maintenant il a la casquette, le forestier a changé de casquette. Il faut protéger la forêt, pas couper, pas trop couper. Il est devenu plutôt auprès des propriétaires forestiers quelqu'un qui incite à entretenir. Voilà. Et puis, si en Suisse, on est effectivement, l'accroissement en bois n'est de loin pas exploité, le canton de Neuchâtel fait exception parce que dans le canton de Neuchâtel, pratiquement tout l'accroissement en bois des forêts neuchâteloises est récolté. Donc ça veut dire que malgré la structure qui n'est pas vraiment différente entre les autres cantons suisses et le canton de Neuchâtel, eh bien on arrive à inciter les propriétaires forestiers à entretenir leurs forêts et donc à exploiter du bois et le commercialiser. Simplement, il faut pas les laisser tout seuls. C'est clair, c'est l'État, les collectivités, qui, parce que c'est une tâche d'utilité publique, entretenir une forêt pour les différentes fonctions qu'elle apporte, eh bien, c'est le corps forestier qui doit s'impliquer dans l'accompagnement du propriétaire pour que ces forêts soient entretenues. Quand j'entends qu'il faut mettre toutes les forêts sous le même chapeau, je dirais, on a un exemple en France, l'ONF qui gère toutes les forêts publiques. En tant que les collègues français ne roulent pas sur l'or. Et puis, j'ai rarement entendu des grandes diatribes en faveur du fonctionnement de l'ONF. C'est plutôt ressenti comme une pression de Paris sur les propriétaires régionaux où nous, on connaît la forêt jardinée, et puis nos collègues français dans le Jura voulaient aussi mettre en place cette forêt jardinée, qui est plutôt dans les forêts d'altitude fortement résineuses. Eh bien, en Suisse, ça s'est bien développé, tandis qu'en France, Paris a dit non, c'était les coupes rases, la forêt régulière. Et puis, il y a eu même des communes sécessionnistes près de Besançon qui ont carrément interdit les agents de l'ONF de venir, et puis ils ont fait leur forêt jardinée. Donc, Voilà, le système suisse, c'est clair, c'est fédéral, mais bon, c'est aller contre, je pense que ce sera très difficile. Et puis, ce n'est pas dans la génétique suisse, si on veut. À mon avis, je n'y crois vraiment pas du tout. Mais Jacques Berne, des fois, on les apprécie modérément quand ils viennent nous parler de ce qu'il faut faire en forêt. Et puis, c'est clair, la demande, ben, prix du marché, le bois suisse n'est pas plus cher que le bois étranger. Le bois suisse, depuis la fin de la dernière guerre, eh bien, c'est un marché libre, il n'y a pas de protection aux frontières. Donc le bois, les Neuchâtelois en particulier, vendent beaucoup de résineux en France. Pourquoi ils en vendent beaucoup ? Parce qu'ils sont, au terme de prix de vente du bois à sortie forêt, sont tout à fait compétitifs, je dirais, par rapport à leurs collègues français. Même on a une bonne réputation parce qu'on vend nos bois à port camion, donc les arbres sont abattus, ébranchés, préparés. Et puis le scieur voit la qualité du bois, alors qu'en France, ils ont plutôt l'habitude de vendre le bois sur pied, donc des arbres marqués en forêt. Et puis c'est clair qu'on peut avoir des surprises par rapport à la qualité du bois lorsqu'on abat l'arbre. Donc voilà. Et puis la mécanisation, c'est clair que la mécanisation en termes de forêt, ça veut dire structure uniforme ou le plus uniforme possible. Et puis ça, c'est clair que ça entre en contradiction avec notre vision multifonctionnelle de la forêt. Donc si on veut avoir une forêt productrice, mais en plus qui accueille la biodiversité, la détente, le sport, et puis la fonction protection contre les dangers naturels, eh bien, cette uniformisation ne répond en fait qu'au marché, hein, qu'aux besoins du marché, et pas du tout aux autres prestations. Donc là, on est un peu... C'est clair que là, on fait le maximum, je dirais. On a déjà bien amélioré les choses, mais on ne va pas pouvoir mécaniser comme certains pays le font, avec des monocultures, avec des essences à croissance rapide, des choses comme ça. En Amazonie, oui, même pas, il n'y a pas besoin d'aller si loin. L'eucalyptus au sud de l'Europe est déjà présent. Et puis, on le plante, 16-20 ans après, on récolte, on fait du papier, et puis on recommence à zéro. Et puis, c'est des machines qui vont récolter ça. Donc, c'est clair que d'un point de vue économique, c'est l'idéal, parce qu'on fait du volume, et puis on a tout de la même essence, donc c'est simple. Nous, quand on récolte, eh bien, on a un tas de résineux, un tas de feuillus, puis après, il faut encore trier le feuillu en fonction des qualités. Donc, on a un peu des petits tas de tout. Donc, c'est clair, d'un point de vue économique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. mais c'est notre structure, notre vision, la forêt, eh bien, qui veut ça. Et puis là, c'est clair qu'on peut s'améliorer, mais... Et puis, les grosses machines, elles font des ornières. Hein. C'est un gros problème, ça. Et puis, quand on a une forêt d'accueil, eh ben, déjà, rien que quand le chemin est boueux, ça peut poser problème. Alors, les ornières, je ne vous dis pas.
Monsieur von Wyss, vous voulez rebondir sur...
Moi, j'aimerais quand même juste insister sur les rythmes. Vous avez mis en évidence l'évolution de l'exploitation depuis il y a 20 ou 30 ans, avec la production par personne, les moyens différents. Vous avez mis en évidence aussi le fait que la forêt était libre, que maintenant elle est pleine de branches. Les forestiers ne plantent pas des arbres pour nos enfants ni pour nos petits-enfants, mais pour les générations qui vont venir après, pour dans 100 ans. Et puis, on est en train de vivre des mutations à l'échelle de 10 ou 20 ans, de toutes sortes, hein, aussi bien économiquement que dans les besoins ou l'utilisation de la forêt par la population, qui vont beaucoup plus vite. Vous l'avez dit aussi avec toutes les autorisations que vous devez donner maintenant. Et puis la façon dont vous plantez les arbres maintenant, ben, on ne sait pas dans 100 ans. Qui s'intéressera à la forêt ? Comment ? Quels besoins on en aura ? Et c'est aussi ce qui fait que vous me faites un petit peu peur avec vos propositions de, disons, d'y aller à l'emporte-pièce, grande échelle. Moi, je pense que là, on doit peut-être revenir sur certains tabous. C'est peut-être bien que dans notre canton, ce n'est pas indispensable que toutes les forêts soient gérées arbre par arbre, tout le temps. Et il y a peut-être quelques. On devrait peut-être avoir aussi un peu plus de diversité dans la façon d'exploiter. Et d'un point de vue de la nature, même de recréer à certains endroits des terrains pionniers, eh bien, c'est souvent que favorable pour la diversité. Ce n'est pas de dire qu'il ne faut rien toucher, etc. Puis peut-être que dans certains secteurs, ça se justifie. Mais on est dans un canton avec de telles différences d'altitude de nos forêts, de telles différences aussi de milieux différents entre l'envers des montagnes et puis l'endroit, entre les terres différentes et tout, eh bien, spontanément, les ensembles naturels, et puis la forêt en particulier, mais aussi les sous-bois, aussi les animaux qui vont avec, si on laissait revenir les choses un peu sans intervention, elles se feraient de façon très différente d'un endroit à l'autre. Et finalement, même si l'intervention humaine est normale, que la rentabilité des forêts, eh ben, il faut bien quand même y arriver aussi à ce qu'on puisse payer l'ensemble des professions et des professionnels qui travaillent, qu'on puisse les payer correctement, puis pas qu'on vienne non plus à supprimer finalement toute l'économie du bois du canton en sous-traitant à une grosse entreprise quelque part en Suisse pour simplement baisser le prix. Je pense que ça, c'est un raisonnement économique un peu... À l'emporte-pièce, mais qui n'est pas finalement le seul qui compte. Puis je ne pense pas qu'à long terme, forcément, la relation entre la population et puis sa nature, et notamment sa forêt qui en est une grande part, y gagnerait beaucoup. Enfin, voilà.
Je veux juste encore...
Oui, allez-y. Voilà.
Alors, comme l'exemple de monsieur le dit, par la mécanisation, il a passé de 6 par personne, à 18. Et si on multiplie ça partout, je ne dis pas que partout c'est possible, eh ben on aura déjà une sacrée avance en termes d'efficacité. Maintenant, j'ai aussi dit, et Yann m'a pris le contre-pied enfin, en disant, on peut aller à l'extrême avec des plantations, etc. Ce n'est pas ce que je voulais appliquer. Mais la logique économique, c'est effectivement ça. Quand on voit en Malaisie, par exemple, sur le caoutchouc, il y a des kilomètres carrés de caoutchouc et il n'y a que de ça. Alors, c'est peut-être très beau en soi, mais c'est peut-être pas très nature non plus. Okay. C'est pas dans ce sens que je voulais dire d'aller à l'extrême. Mais je pense qu'on peut aller faire un peu plus dans ce sens-là de la mécanisation, regroupement, fusion, enfin, je ne sais pas. Maintenant, sur la population et l'avis de la population de la forêt, je prends l'idée qu'il y avait. Si le prix relatif de l'énergie augmente d'1% par année, et que dans 30 ans, vous avez 40 ou 50%, où vous payez 100% plus d'énergie, on passe au feu, au bois, et là, l'attitude de la population va totalement changer. On va passer de la protection de la forêt à dire, maintenant, moi, je veux de l'énergie, et puis, il faut couper le bois. Donc, on est dans un... Si je suis quelqu'un en plus... On est dans une situation de luxe où l'énergie est bon marché, et donc, on a pas besoin du bois pour ça, etc. Les transports sont subventionnés parce que on s'occupe des CO2 puis de la protection de la forêt pour le CO2, mais les transports, quand on l'amène de Pologne, et même si on le fait en Suisse, ça bouffe aussi du CO2. Et si on appliquerait le prix de CO2, même s'il est bas, mais si on internalisait ces effets externes négatifs, et on jugerait le transport à même qu'on juge la construction d'un immeuble qui doit être neutre CO2 en énergie, et ben je vous assure que on payera un prix plus cher et ça va changer la mentalité des personnes. Je suis économiste, alors je sais qu'à part l'économie, il y a aussi autre chose. Mais quand les gens, on les prend par le porte-monnaie, c'est là qu'ils réagissent. Et je prends l'idée de M. Fonvis de long terme. À long terme, c'est peut-être pas ce qu'on a maintenant. À long terme, c'est peut-être on va exploiter beaucoup plus le bois et puis on va faire des compromis sur la nature et l'utilisation. Je ne dis pas que c'est une bonne chose en soi, hein, mais ce sera la réalité. Voilà. Alors, je voulais un peu provoquer dans ce sens-là. Je ne suis pas à l'extrême.
Je suis obligé de réagir quand même à ce que vous dites parce que moi, je ne suis pas économiste, je suis forestier bûcheron. Et puis un amoureux de la nature, donc je pense pas être un idéaliste non plus. Je suis confronté tous les jours avec la dureté du terrain, mais je crois aussi qu'on pourrait changer de paradigme et puis penser qu'on peut fonctionner différemment. de toujours parler d'économie. L'économie, on sait où ça peut nous mener. Pardon, nous mener. Moi, je serais tenté de faire une analogie aussi avec l'agriculture. Hein. On sait que l'agriculture a pris aussi le sens de la mécanisation, des machines toujours plus grosses. Mais ça, on sait maintenant, depuis quelques années, que le peuple, il veut une agriculture qui est plus durable, plus proche du consommateur. Et pourquoi pas imaginer aussi que les forêts soient gérées de cette manière-là. Cette multifonctionnalité, ce bon compromis à la Suisse, les pays qui nous entourent nous l'envient. Et puis, développer une économie forestière du côté de la foresterie, de la liniculture, eh bien, y a des pays aussi qui l'ont testé et qui reviennent en arrière aussi. Ils se disent, ce qui se passe en Suisse, c'est peut-être pas si mal. Donc moi, je verrais plutôt le fait qu'on est arrivé à un bon équilibre qui nous permet de pouvoir voir venir, en quelque sorte, et d'orienter petit à petit dans une ou l'autre direction, mais pas dans des mouvements de grand écart. Et puis, encore une fois, je pense que on voit que l'économie, voilà. Alors il y a de la richesse, mais d'un côté il manque d'autres choses. Donc les gens sont très demandeurs aussi d'un équilibre qu'ils vont retrouver en forêt et qui compte beaucoup. Voilà.
Juste réagir. Je ne sais pas, peut-être j'ai une mauvaise vision, mais on parle beaucoup des déficits des exploitations publiques. Hein. On se plaint. Je ne pense pas nécessairement que c'est l'OFEVE, par exemple, qui se plaint qu'on est en déficit. Tant que les gens payent d'une façon ou d'une autre, et ce qui est effectivement le cas, monsieur ne paye rien pour les services. Non, mais il faut le dire. Alors, c'est très bien. C'est un service public.
J'y reviens.
Donc, il faut admettre. il faut admettre que c'est un service public et qu'il ne faut plus revenir sur la question. Il faut être rentable. Et puis, quand on vote les comptes communaux, pourquoi on a un déficit? Et puis, c'est croissant, etc. Donc, on se donne les outils financiers, de gestion financière, en disant, ben voilà, on fait la part des choses. Et si les choses ne sont pas rentables, elles ne sont pas rentables parce qu'on veut que ce soit. Non, pas qu'on soit grand, on ne peut pas le faire autrement, mais on veut avoir ces prestations qui sont bénéfices de tout le monde, et je reconnais qu'il y a une utilité qui va au-delà de la fonction économique, ça, c'est tout à fait incontestable, mais il faut la payer. Et maintenant, on est en train de réfléchir, ben alors comment on va faire payer les utilisateurs de forêts, hein, vous et d'autres, pour qu'on fasse de rentrée. Ben alors, laissons, disons commune, on ne fait rien, vous payez. Ben alors, le citoyen l'a payé. Et c'est peut-être un discours plus logique que la schizophrénie, il faut entretenir la forêt, ça coûte cher, mais puis après on a un déficit, et puis on va pleurer à la Confédération, parce qu'il faut des subventions. Voilà. Et peut-être aussi, dans cette manière, il y a aussi une réflexion sur le regroupement des exploitations. Les communes vont se dire, on va faire au-delà du canton, parce que là, on ne parle que du canton, il y a la forêt aussi ailleurs. On peut faire des regroupements intercantonaux ou interrégionaux dans une région, et puis on peut gérer ça. C'est comme ça que je pensais de gérer un plus haut niveau. Ce n'est pas que de Paris ou de Berne vient Lucas et puis dit, il faut faire ceci. Mais on peut regrouper de façon intelligente tout en préservant peut-être une certaine concurrence aussi. Parce que si c'est un monopole public, c'est pour l'économie forestière, ce n'est pas bon non plus, pour la compétitivité de la forêt. Donc la concurrence, oui, mais peut-être pas entre 1500 exploitations et 2500 propriétaires qui ne font rien de la forêt.
Moi, je voudrais juste réagir parce que sur deux aspects complètement différents. Le premier, c'est vrai que on paye pas actuellement pour aller courir dans la forêt, pour pratiquer notre sport. Par contre, il y a des sports qui sont beaucoup plus coûteux que le nôtre pour la collectivité publique. Parce que typiquement, la ville de Neuchâtel possède un stade de foot, possède plusieurs stades de foot, possède une piscine, possède un anneau d'athlétisme. Et clairement, les clubs qui utilisent ces infrastructures, ils ont quelques petites locations à gauche, à droite, mais fondamentalement, c'est aussi des déficits pour la collectivité publique. Alors certes, nous, on ne coûte pas grand-chose quand on va en forêt, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on n'y paye rien. Je vais donner un deuxième exemple, parce que je vous ai dit en introduction que j'avais été aussi dans l'organisation des championnats du monde vétérans qui ont eu lieu en 2010 dans le canton de Neuchâtel. Juste pour vous rappeler un tout petit peu la situation, c'est quand même 4500 coureurs de l'étranger qui sont venus pendant une semaine au mois de juillet à Neuchâtel pour courir. Alors à nouveau, on se dit ça, ben 4500 coureurs, c'est à peu près, non maintenant autour du canton, je crois qu'ils sont à 3600 coureurs ou quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que clairement que quand on organise des manifestations et qu'il commence à y avoir des nuitées, c'est là où tout à coup les collectivités sont aussi très intéressées par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on a 5000 participants qui sont sur le canton de Neuchâtel et qui doivent se loger dans la région, eh ben ça devient relativement intéressant. Je vous donne quelques chiffres. Le budget de la manifestation, c'était globalement 1 million. Vous avez 5000 participants, ça fait 400 francs par personne, c'est à peu près ce qu'on compte pour 5 manifestations avec un peu de logistique, etc. Après, ben, là, on rentre à nouveau un petit peu dans l'économie, mais ces gens, ben, ils vont commencer à se loger, ils vont commencer à se nourrir, ils vont faire quelques achats, ils vont acheter 2-3 montres, 2-3 couteaux suisses, un peu de chocolat à gauche, à droite. Donc, on arrive facilement à hauteur de 5 à 6 millions de frais qui vont être engendrés par cette manifestation. Après, ben, les économistes, ils mettent comme ça un petit multiplicateur au passage, parce qu'évidemment, on va avoir des gens qui vont vivre, qui vont avoir des revenus, qui vont les dépenser, etc. Puis une fois qu'on applique, bah, disons, les impôts communaux, fédéraux, TVA là-dessus, on arrive quand même facilement à des montants de l'ordre de 2 millions qui revient par des impôts dans les collectivités publiques. Et vous voyez qu'ici, typiquement, on a une manifestation qui était porteuse, donc on a investi à peu près 0 franc de la part des collectivités publiques, si ce n'est 2-3 aides de logistique, etc. La manifestation, avec son million de rentrée de budget de fonctionnement, a finalement généré pour environ un demi-million d'impôts pour les collectivités publiques. Et clairement, ici, on a aussi des possibilités, je dirais, d'exploiter la forêt avec des activités sportives ou sociales qui permettent après, effectivement, de diminuer les déficits des collectivités publiques. Alors, clairement, ça ne rentre pas directement dans le compte forestier, etc. Mais on voit qu'on a aussi, disons, une possibilité d'utiliser ces activités ou, disons, la fonction sociale de la forêt pour aussi ramener des revenus au sein des collectivités.
Il y a un monsieur qui avait une question. D'abord, monsieur là-bas, au fond, oui.
Oui, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Schoenberger. Vouloir faire peindre le diable sur la muraille en nous parlant de retour au chauffage au bois d'ici quelques dizaines d'années pour faire passer la mécanisation à outrance de l'industrie forestière, ça je trouve un peu cavalier. Mais je comprends bien, M. Schoenberger, vous qui êtes payé par l'État, que vous n'avez jamais entendu parler de photovoltaïque. De photovoltaïque.
Non, mais on ne va pas faire...
Non, juste une question. Non, j'ai dit qu'on va utiliser le bois. Alors, moi, j'ai eu une conférence là, dans le cadre d'un professeur de FPFL qui m'a dit qu'il ne faut pas brûler le bois, qu'il faut le transformer en gaz, etc. Donc, moi, je dis simplement ce que je voulais dire. C'est vrai que c'était un raccourci. On peut utiliser le bois pour faire de l'énergie, mais l'énergie peut prendre des formes différentes. Donc, je ne voulais pas dire brûler le bois, mais utiliser le bois pour faire de l'énergie sous une forme différente. Et puis ça ne justifie pas ce que vous avez dit, je ne voulais pas faire ce raccourci. Bon, d'un autre côté, je suis là aussi pour vous dire 2-3 choses en termes économiques. Et peut-être,
Monsieur Attinger,
juste aussi préciser quelque chose. Alors là, je reprends ma casquette d'énergéticien, je m'excuse. Oui. Mais clairement, on ne parle pas forcément de surexploiter la forêt. Mais clairement, si on a le prix du pétrole qui passe à 150 francs les 100 litres ou à 200 francs les 100 litres, on va simplement avoir une demande pour le prix du bois qui va augmenter. Et simplement, maintenant, des branches ou des résidus qu'on ne peut simplement pas exploiter parce qu'on n'arrivera pas à les vendre ou qui ne seront pas rentabilisés, on pourra effectivement les transformer en plaquettes forestières et qui seront après vendues à des collectivités ou à des privés. Et à ce niveau-là, on ne va pas augmenter le rythme d'exploitation de la forêt, mais on va exploiter les résidus de manière plus durable, plus intense.
Mais en termes, puisque monsieur soulevait la comparaison avec l'énergie solaire, par exemple, est-ce que là, il y a le bois est concurrentiel en termes de rendement? Alors, Monsieur Bonny et Monsieur Attinger, puisque vous avez votre casquette.
C'est clair que le bois, d'un point de vue, fournit un kilowattheure qui est bon marché. par rapport aux énergies solaires ou comme ça. Nous, on vend le kilowattheure 6,5 cm. Donc, sortie chaudière, le kilowattheure de chaleur est vendu 6,5 cm. Donc, c'est tout à fait concurrentiel. Donc, c'est plus, il ne faut pas s'imaginer, quand on dit chauffer au bois, il faut plus s'imaginer le petit fourneau avec les bûches dans chaque pièce. C'est d'autres systèmes. Voilà, le chauffage à distance, c'est ça qui va remplacer, si on veut, des chauffages au mazout ou au gaz individuels. Et puis, c'est sous cette forme-là, donc des relativement grosses chaudières, que le bois est le plus intéressant d'un point de vue économique. Et puis, donc cette éventualité est déjà là, presque déjà là. Pour le district de Neuchâtel, on sait déjà, avec les projets qui sont en route, que d'ici 2015, la totalité, la qualité bois de déchiquetage, donc la moins bonne qualité de bois qu'on trouve dans nos forêts, ben sera utilisée dans des chauffages au niveau régional. Donc c'est tout proche. Au niveau du canton, on est privilégié, si on veut. Il y a encore de la marge au niveau du canton, mais ça va aller relativement vite, même que le mazout aujourd'hui n'est pas très très cher, mais qu'il y a eu un pic il y a 3-4 ans, eh bien on a vu, ne serait-ce que la vente de bois de feu en bûche, on a vu l'automne, au mois de septembre, il y avait une demande très forte. Et puis c'était, je ne me rappelle plus, mais ce n'était pas doubler le prix du mazout. Hein, c'était 20 ou 30, 40% de plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc très peu, tout de suite, ça a réagi. Donc c'est clair que, de toute façon, le bois et le solaire, je dirais qu'ils ne sont pas vraiment concurrentiels parce que faire de l'électricité avec du bois, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, c'est deux sources d'énergie bien différentes qu'on utilise bien différemment. Mais le bois, je crois que, de toute façon, j'aime bien cette image. En Suisse, si on devait remplacer toute l'énergie qu'on consomme par du bois, si on veut avoir qu'une seule source d'énergie, le bois, pour fournir tous les besoins énergétiques qu'on a, on tiendrait 6 mois, puis on n'aurait plus une forêt, plus un arbre en Suisse, et puis c'est fini. Donc, il faut pas rêver. Hein. L'énergie bois, c'est une des énergies qu'on devra exploiter pour couvrir nos besoins. Mais après, je crois qu'il faut l'utiliser, mais après, il faut aussi économiser l'énergie, y compris l'énergie fournie avec du bois, de manière rationnelle, économique. Il faut isoler nos bâtiments. Donc, les chauffages à distance aujourd'hui qui chauffent sans bâtiment, pour dire quelque chose, eh bien, demain, avec la même quantité de bois, ils devront en chauffer 150, 200, peut-être 300, parce que notre besoin en énergie devra être plus faible.
Une question là? Non? Alors, monsieur. Oui, bonjour.
Merci. De la fenêtre de ma cuisine à Bôle, je vois tous les jours un train d'environ une demi-douzaine de wagons remplis de grumes jusqu'à Rabord qui descend du Val de Travers. Ça m'intéresserait de savoir d'où vient tout ce bois et où il va.
Donc, c'est ce qu'on appelle le bois d'industrie. Donc, c'est un peu la qualité entre le bois de service qu'on utilise en scierie et puis le bois de feu. C'est le bois qu'on déchiquette et puis on fait des panneaux, on fait du papier, du carton et tout ça. Donc, c'est clair, aujourd'hui en Suisse, le bois qui est exploité ne peut pas être transformé dans le pays parce qu'on n'a pas la filière bois qui est suffisamment développée pour transformer tout ce bois qui est récolté dans nos forêts. Donc une bonne partie de ce bois rond part à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit en Autriche, c'est principalement ça. Donc les wagons que vous voyez, c'est beaucoup du bois qui part soit en Suisse allemande, soit en Autriche, pour être transformé en panneaux, même on exporte, c'est vraiment le système dans lequel on vit aujourd'hui. On exporte en Autriche du bois de feu. Je veux dire, c'est vraiment absurde parce que s'il y a quelque chose qu'on ne devrait pas transporter, c'est bien du bois de feu. Aujourd'hui, les Autrichiens ont développé, contrairement aux Suisses, une, filière de valorisation du bois extrêmement performante. Donc ils utilisent plus de, ou ils transforment plus de bois que la forêt autrichienne ne peut produire. Donc ils sont obligés d'aller acheter ailleurs du bois pour l'instant. Et puis comme en Suisse, ben, nous on est dans le sens inverse, et ben, c'est nous qu'on leur fournit le bois, puis une bonne partie du bois revient après en Suisse sous différentes formes, sous des formes finies ou semi-finies, pour être utilisées chez nous.
L'intérêt d'Autriche, c'est parce que les prix sont bas. Les prix du bois de feu.
Non, c'est parce que je dirais que le prix du bois est haut parce que la demande en bois rond est forte, donc ils doivent aller le chercher loin. Et puis nous, c'est clair que du bois de feu, si on peut le vendre au niveau local, eh bien, on le vendra plutôt au niveau local. Et puis si les Autrichiens ne nous en donnent pas le prix que nous, on le vendrait au prix local, on ne va pas le revendre. Donc ils payent le prix local plus le transport. Donc c'est clair que eux ils payent le bois plus cher chez eux, si on veut, que nous, on ne le paye au volume.
Est-ce que oui, Michel Von Wies?
Oui, j'aimerais juste donner deux anecdotes. Une que Yann Bonny connaît bien, c'est que dans les Hauts-de-Neuchâtel, il y a une centaine d'années, on a planté des pins noirs qui n'avaient rien à faire ici. Pourquoi? Parce qu'on se disait, quand ils seront mûrs, on va pouvoir faire des traverses de chemin de fer qui vont bien se vendre. Bon, mais aujourd'hui, ces pins noirs, on les a mis sur une garrigue, là où il n'y a pas de terre. Ils ne sont déjà pas venus comme ils espéraient qu'ils viendraient. Et puis, en fait, ils ne se vendent pas. Ils finissent dans la chaudière de la maladière, enfin, pour chauffer les écoles de Neuchâtel. Bon, c'est un exemple. Mais on ne peut pas savoir aujourd'hui comment ça sera dans 100 ans. Et puis, tant qu'on peut, on a pas essayé de ne pas faire trop de bêtises en pensant qu'on réfléchit plus intelligemment que d'autres et puis qu'on va rationaliser tout en parce que c'est ce qui nous attendra forcément dans 100 ans. On n'en sait rien. La deuxième anecdote, c'est qu'encore dans les années 50, une famille pauvre à Neuchâtel, la maman qui vivait seule avec ses quatre enfants envoyait ses enfants à la forêt, pas seulement avec un petit char pour ramasser des branches, parce qu'il n'y en avait plus. Pendant la guerre, tout avait été nettoyé. Les enfants devaient prendre une corde avec un caillou et puis lancer le caillou par-dessus les branches mortes qui étaient à 5 mètres, parce que c'était comme ça qu'ils arrivaient à ramener du bois pour mettre dans le fourneau. Bon. Ce n'est pas pour dire qu'on va revenir à ça, mais c'est pour dire que c'était il y a seulement 50 ans, 60 ans. Et ça, c'est la moitié de la durée de vie d'un arbre. Donc, moi, j'aimerais juste faire un petit plaidoyer pour la nature en disant, c'est vrai que on parle beaucoup de biodiversité, ça chauffe les oreilles à certains, on a l'impression qu'on fait beaucoup et puis qu'on se met des contraintes, notamment par rapport à l'économie, qu'on pourrait bien diminuer un peu sans que ce soit trop problématique. Pourquoi est-ce que les organisations de protection de la nature ont un droit de recours par rapport qui paraît disproportionné à certains pour pouvoir défendre ou s'opposer à certains projets? C'est parce que contrairement aux autres utilisateurs de la nature, notamment de la forêt, la nature elle-même, elle n'a pas la possibilité de se plaindre quand on lui marche sur les pieds, puis qu'on ne respecte pas ses droits, et puis qu'on ne respecte pas les lois qui la concernent. Alors bon, elle a quelques avocats comme nos associations, on est juste censé pouvoir s'exprimer à sa place. Et puis ça, pas dans une idée de penser qu'il n'y a que la nature et puis que toutes les autres activités ne sont pas valables. Mais simplement parce qu'on a à se souvenir que finalement, la nature, c'est les bases de la vie pour les générations qui viennent aussi. Alors, d'accord, sans exagération, sans peut-être en faire des fois trop, comme on nous reproche, mais pas non plus en balançant tout et puis en oubliant ça, quoi.
D'accord, merci. Je voudrais encore prendre juste 5 minutes... pour chacun d'entre vous, pour faire votre conclusion par rapport à cette discussion, en imaginant votre forêt idéal en fonction de vos intérêts, en fonction peut-être de ce qui a été dit, et de dire en deux mots ce que vous recherchez dans une forêt et ce que vous ressentez quand vous voyez une forêt et le bois, les ressources qu'elle représente. Alors, monsieur Attinger, peut-être.
Alors moi, je dirais, c'est clair que nous, en tant qu'utilisateurs de la forêt, on cherche finalement la possibilité de découvrir des nouvelles forêts. Alors évidemment, moins on a de chemin, plus on est content. Alors à nouveau, après, on est en contradiction avec les forestiers. Plus on a de branches, moins on est content aussi. Alors on est de nouveau en contradiction avec les forestiers. Alors les ornières, je vous en parle même pas. Hein, ça c'est. Mais c'est clair qu'on voit aussi que clairement les besoins ont beaucoup évolué. Et puis c'est vrai que comme ça a été mentionné, on comprend bien qu'il y a de plus en plus de demandes qui viennent de la part des associations, qu'elles soient sportives ou d'organisations de la nature, pour des demandes d'accès à la forêt et autres. Mais on voit aussi qu'il y a entre guillemets, un trend social qui est en train de changer, puis qu'il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, on travaillait plutôt 50 heures par semaine et puis qu'on n'avait pas forcément envie le week-end de partir en forêt, etc. Donc c'est vrai qu'on a aussi ce changement, et puis c'est vrai qu'on voit aussi que les règles qui ont été mises par l'État actuellement sont des fois un petit peu lourdes à respecter, et que de temps à autre, quand on organise des manifestations avec 50, 60 ou 70 coureurs, on devrait pouvoir aussi y accéder plus facilement.
D'accord. Michel Von Wies.
Bon, je crois que j'ai dit pas mal d'éléments. Dans notre canton, moi, j'aimerais moins d'épicéas en plaine, parce que je pense que ce n'est pas vraiment leur place, mais il n'y en a pas trop. Il y a certains cantons où c'est pire que chez nous. Alors, déjà, bravo, forestiers, et puis, continuons. Hein, voilà. Ensuite, si j'avais une baguette magique, j'aimerais qu'il y ait quelques petites forêts, là où ce n'est pas rentable d'avoir une forêt très productive, qu'on fasse un petit peu, qu'on laisse un petit peu plus, comme je l'ai dit, forêt riveraine, forêt des boulis, qu'on développe aussi plus, mais ça c'est aussi notre job de le faire, mais en fait qu'on soit soutenu pour le faire, développer des clairières dans les grandes forêts, dans la montagne, et puis voilà, tout en sachant qu'il n'y a pas que la nature, puis que c'est très bien qu'on soit souvent à se frotter un peu les uns les autres, en étant un peu restreint et puis un petit peu dérangé par ceux qui sont à côté, parce que la vie est faite d'une multitude de besoins, d'élan, et puis c'est finalement ça qui est beau, quoi, voilà.
Voilà, monsieur Schoenberger.
Alors la forêt idéale, moi je l'ai pas en tête. Parce que je suis incapable de répondre à cette question. Par contre, puisque j'ai une sensibilité économique et que notre projet est économique, je favorise, en tout cas en termes de raisonnement, le raisonnement économique. Ça ne veut pas dire qu'il faut, que l'économie ne peut pas prendre en compte les services sociaux et d'environnement. Et d'ailleurs, de plus en plus, si on parle d'effets externes, de pollution, etc., les économistes et les vrais économistes devraient penser à comment tenir compte de ces effets externes lorsqu'on parle d'un sujet. Alors, quand on a une forêt de libre accès, qu'on a rendu accès sans restriction, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il y a plusieurs bandes de demandes qui viennent pour utiliser la forêt qui ne coûte, en tout cas directement rien, et qui est financée par le contribuable. Et là, on arrive à une contradiction entre les exploitations économiques, alors pas dans le sens extrême, mais enfin raisonnable économique, avec une efficacité relative et efficace, concurrentielle, parce que c'est ce qu'on veut aussi. Puis de l'autre côté, on veut préserver cette liberté, puis on veut encore protéger la nature. Tout ça, on peut comprendre, et on peut aussi le mettre en termes économiques, parce que c'est aussi une valeur tant que les gens valorisent ça. Ce que je veux dire, c'est que ce que les gens valorisent, ça peut changer. Moi, je pense que ça peut changer. Par exemple, lorsque le prix d'énergie va changer, lorsqu'on met les coûts de transport plus élevés avec le CO2, ça peut changer. On est dans une situation actuelle qu'on constate. Tout le monde est pour la forêt, la liberté, tout ça, c'est bien. Peut-être dans 20 ans, 30 ans, on sera dans une autre situation et le discours aura peut-être changé. Et je pense que c'est notre rôle d'économiste, enfin, pour la partie économique, de dire que les choses peuvent changer, que ça dépend des prix relatifs, ça dépend de la politique d'internalisation des effets internes, l'État peut prendre en compte ces effets, etc. Mais on ne peut pas crier déficit, etc., et puis en même temps dire, soyez rentable, soyez... Etc. Si on veut être rentable, il faut prendre des mesures. Et si on ne veut pas les prendre, et si réduire les coûts, être plus efficace, mécaniser si on veut, je comprends que ça a aussi des limites, hein, ça a aussi des limites, on ne peut pas tout mécaniser, eh bien, il faut payer le prix. Voilà. Et c'est peut-être à l'économiste de montrer les alternatives et ce qui se coûte pour la société si on prend cette alternative par rapport à une autre en des termes généraux, pas nécessairement seulement purement économiques.
Et le mot de la fin, alors à l'ingénieur forestier, que je voudrais aussi remercier parce qu'il a beaucoup épaulé M. Schoenberger dans l'organisation de ce café scientifique.
Donc moi, je vois la forêt diversifiée, donc un mélange d'espèces et puis d'arbres d'âges différents sur des petites surfaces, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais il y a les changements climatiques qui vont avoir une influence sur la forêt. Et puis aujourd'hui, on sait que la forêt diversifiée, qui est mélangée, eh bien c'est celle qui résistera le mieux ou qui s'adaptera le mieux à ces changements climatiques. Cette forêt, elle devra être durable, parce que le développement durable, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui est une préoccupation de tout le monde. Et puis, multifonctionnel, ça, je crois que tout le monde voudra trouver un peu de tout dans la forêt qu'il a près de chez lui. Et puis, je vois aussi une forêt qui approvisionne un marché local, que ce soit en termes de bois de construction, de bois aussi d'industrie, donc pour le papier, et puis de bois énergie, parce que le bois est une matière qui prend beaucoup de place, qui a un gros volume pour un prix relativement faible. Donc c'est quelque chose qu'il est tout à fait absurde de transporter, en tout cas sur de longues distances. Et puis ce bois sera vendu à un prix juste pour que le propriétaire puisse, grâce à cette recette du prix du bois, assurer l'entretien de cette forêt multifonctionnelle. Et puis enfin, il y aura aussi des forêts vierges, on ne va pas aller jusque-là, mais sans entretien.
du parc national.
Voilà, des forêts parc national, parce que les propriétaires en Suisse sont certifiés FSC, et puis PEFC, qui est le label européen. Et puis dans les critères d'attribution de ce label, il y a une condition, il faut que 10% soit dans des réserves. Bon, la moitié sera dans des réserves totales où on ne fait plus rien du tout. Et puis 5% où on a des forêts qui sont principalement entretenues pour des raisons de biodiversité, par exemple la promotion du chêne, ces choses-là. Et puis aujourd'hui, dans le canton de Neuchâtel, on a déjà 2,5%, donc la surface forestière neuchâteloise, qui est en réserve forestière totale, qu'on ne touche pas, et 5% en réserve forestière, intervention particulière pour la biodiversité, qui sont déjà là, et puis ils le sont pour 50 ans. Donc, ouais, c'est pas mal.
Il reste encore les deux.
Il reste 90% pour faire ce qu'on veut.
Merci beaucoup. Merci à vous, cher public, d'avoir participé à ce café scientifique. Je vous donne encore rendez-vous pour la prochaine manifestation. Ce sera le 21 mai. Et là, on abordera un sujet un peu plus grave autour de la célébration du conflit de la Première Guerre mondiale, du début de la Première Guerre mondiale. Célébrer les conflits inutiles ou de bonne guerre. Ce sera donc le 21 mai, ici, même jour, même heure. Et on aura le plaisir d'avoir comme modératrice Madame Joëlle Kuntz, qui est donc chroniqueuse au journal Le Temps et ancienne présentatrice du journal télévisé, pour ceux qui s'en souviennent, à la télévision suisse romande. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je voudrais encore remercier Roland Hamsler, notre fidèle technicien, qui mérite aussi des applaudissements. Merci beaucoup et bonne soirée.